RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story. Si vous avez raté la première heure des grandes gueules, elle est déjà en podcast. Les podcasts, c'est la session de rattrapage des GG. Et puis, vous avez aussi toutes les petites discussions que l'on peut avoir comme ça pendant la pub. Et puis là, avec Abel Boyi, Didier Giraud et avec Barbara Lefebvre, c'était les souvenirs d'école et notamment les souvenirs de lecture. Et Didier Giraud nous a confié une petite anecdote à propos de sa mémoire auditive. Il n'avait pas besoin d'apprendre par cœur les fables et autres récitations. Donc découvrez ça sur les podcasts, les mémoires d'école de nos grandes gueules. Barbara, Abel, Didier, on va s'intéresser à Madame Amélie de Montchalin.
Et s'appeler les copains d'abord, c'est fluctuat, nec mergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord.
Alors les copains d'abord, est-ce que ça s'applique à Madame Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes Publics qui va être recasée première présidente de la Cour des Comptes en lieu et place de Monsieur Pierre Moscovici qui lui-même part à la Cour des Comptes Européenne.
À quoi reconnaît-on la fin d'un règne politique? Eh bien, en général, quand on s'apprête à quitter le pouvoir, on décore et on recase des amis. Hier, il y a eu une séance de décoration d'Emmanuel Macron qui a décoré les macronistes de la première heure. Voilà. Stanislas Guérini, Olivier Dussopt, Madame Borne, etc. Ils étaient tous réunis et ils ont tous reçu une petite médaille avec un mot d'Emmanuel Macron qui les a remerciés d'avoir tout fait pour qu'ils soient au pouvoir près de 10 ans maintenant. Donc il y a les décorations, ça c'était hier soir, et puis il y a les nominations. Mm-hmm. Et là, on apprend que Madame de Montchalin va être nommée présidente de la Cour des Comptes en remplacement de Pierre Moscovici. Alors, elle est âgée seulement de 40 ans. Elle peut théoriquement rester en poste jusqu'en 2053, puisque c'est un poste inamovible.
Oh,
on
ne
peut pas
va.
La bouger une fois qu'elle est nommée. Ah. Donc si elle veut, elle peut aller jusqu'à la limite d'âge qui est fixé à 68 ans. Donc on peut avoir Madame Montchalin à la tête de la Cour des Comptes pendant 28 ans. Bon, peut-être qu'elle-même en aura marre au bout d'un moment. Alors, c'est pas sa compétence, parce que c'est quelqu'un qui est... On l'a reçu d'ailleurs la semaine dernière, qui a du talent, mais le problème, c'est que, et certains le soulignent au sein même de l'Assemblée nationale dans l'opposition, c'est que le premier rôle de la présidente de la Cour des Comptes ça sera de juger le budget qui vient d'être voté. Or, ce budget a été préparé par qui? Par Amélie de Montchalin elle-même. Donc là, ça va poser
il y aura une bonne note comme ça
de conflit d'intérêts. C'est pour ça que j'ai entendu notamment M. Coquerel, le président de la Commission des Finances, dire que c'est pas Montchalin qui pose problème, c'est le fait qu'elle vienne directement du ministère des Comptes Publics à la Cour des Comptes. Donc, est-ce que cette nomination vous gêne?
Le budget de la Cour des Comptes, c'est 200 millions d'euros.
Oui.
Et quand tu es à la tête de la Cour des Comptes, c'est à peu près entre 14 et 20 000 euros par mois en comptant les frais.
C'est symbolique.
C'est mieux payé que Camille.
Supprimer ça, ce serait de l'ordre du symbolique. Ça ne représenterait rien par rapport à la charge de la dette. L'ancien régime, c'était des charges héréditaires. Alors, aujourd'hui, on n'a plus les charges héréditaires, on a les charges à vie avec les nominations des copains. Alors après, on va nous dire, non, mais elle est très compétente, Madame de Montchalin, elle a fait HEC, etc. Oui, elle n'est pas la seule à avoir fait HEC. On peut peut-être trouver quelqu'un qui a fait HEC, l'ENA, et qui soit peut-être un peu plus neutre idéologiquement que Madame de Montchalin. Donc on se tamponne Richard Ferrand au Conseil Constit, on se tape Montchalin à la Cour des Comptes, le Conseil d'État, je pense que ça va pas tarder aussi. D'ailleurs, je sais pas qui est à la tête, mais ça doit être encore un macroniste. Monsieur Macron positionne tous ses petits amis, c'est le roi. Mais c'était chouette. C'était chouette, la monarchie absolue.
Dit, c'est pas propre à Emmanuel Macron.
Non, c'est tous, on en parlera tout à l'heure. Ah. Non, mais c'est tous. Il voulait faire la révolution. C'est pas ça? D'accord.
Oui, alors, l'ancien régime
ne s'est jamais.
C'était la révolution de la République pour revenir à l'ancien régime.
L'ancien régime.
T'as rien compris, Barbara. C'était pour revenir à l'ancien régime.
Mais justement,
alors,
l'ancien régime
termine,
ne s'est jamais aussi bien porté. Encore une fois, afuera! Afuera, c'est plus la tronçonneuse. Il va falloir que ça saute tout ça.
À la différence que Macron est encore jeune, que Macron va jouer sur la nostalgie pour essayer de revenir soit en 2032, soit en 2037. Ouais. Donc il est en train de cadenasser tous les gros postes parce qu'on a bien compris que ce n'est pas le gouvernement qui gouverne. Ce sont les hauts fonctionnaires, ce sont les personnes qui sont à la tête de toutes ces agences et tous ces pseudo-comités
théodules. Mais quels sont les critères de nomination? C'est peut-être
mais,
ça le problème.
Mais non, mais c'est la fidélité.
Abel, si tu dis que ces gens-là, parfois, ont plus de pouvoir que le ministre lui-même ou l'élu, qui a donc été élu par définition, ça pose un problème.
Il faut,
fixer des critères de sélection ou un contrôle sur ces nominations.
Avec des personnes indépendantes. Mais là, comme tu l'as dit, c'est l'état profond, c'est-à-dire qu'elle est c'est une macroniste de la première heure, d'accord? Elle est là depuis le départ. Elle est récompensée pour sa fidélité, comme Richard Ferrand et comme d'autres. Alors, comme ça a été dit, oui, à chaque fin de règne, on a son lot de nominations. Mais lui, il est jeune et il prévoit déjà son retour parce qu'il va cadenasser le prochain quinquennat. Vous allez voir ça parce que Macron, et on va en parler tout à l'heure.
Il casse ses amis pour que son successeur,
évidemment, se plante et il va revenir. Mais regardez, c'était bien.
Voilà. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment indécent. C'est que les nominations.
Avec de la mémoire auditive, revanche, en ce qui concerne l'élocution.
Voilà.
Là, c'est plus problématique.
C'est normal. Pour le nombre de fois où t'es au journal moyen dans la semaine, Alain, s'il te plaît. je trouve que ce qui est gênant, c'est pas que les nominations soient le fait du prince, c'est que les nominations dans quelque chose qui est censé être un peu le contre-pouvoir, quoi. À un moment donné, la Cour des comptes, c'est aussi là pour mettre le doigt sur des dysfonctionnements financiers de l'État. Et pour moi, le chef de la Cour des comptes, il devrait être nommé par l'Assemblée nationale. Il devrait être élu, il devrait être je sais pas quoi. Enfin, à un moment donné que
auditionné peut-être
que Macron nomme qui il veut dans le comité des fonds de la glace du Groenland, à la rigueur on s'en fout quoi. Tu vois, il y a des nominations
surtout que c'est
pour les copains.
C'est-à-dire que madame Montchalin si elle veut elle pourrait rester une vingtaine d'années à la tête de l'institution.
Non mais que ça soit inamovible pour faire une connerie, à la rigueur c'est pas grave. Mais là, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est un contre-pouvoir. Et dans les nominations, il y a des trucs qui sont pas gênants parce que c'est des voies de garage qui ne servent à rien. Et puis, il y a des choses qui sont des contre-pouvoirs. Et dans les contre-pouvoirs, je suis désolé, ça devrait être élu ou au moins ratifié.
Il y a deux choses qui... Un, effectivement, il n'y a pas d'audition. Moi, ça ne me choquerait pas que la candidate désignée par le pouvoir soit auditionnée. Qui est effectivement des critères fixés. Et puis le côté inamovible. Alors je comprends ce que ça veut dire inamovible. Ça veut dire que comme ça, quel que soit le pouvoir, on change pas la présidente de la Cour des comptes. Elle reste en poste. Enfin bon, jusqu'à présent, on nommait des gens qui étaient plutôt en fin de carrière à ce poste-là. Ah oui. Donc on savait que ça allait pas rester pendant 30 ans. Là, elle peut rester quasiment 30 ans. Bon, là aussi, ça pose un problème. Et je suis assez d'accord avec Abel. Je sens un peu le calcul en fait. On nomme des amis du pouvoir. En pensant que Jordan Bardella ou Marine Le Pen, ce sera plutôt Bardella, si jamais c'est lui qui devient président de la République, on aura finalement
un corridor verrouillé.
Il y a un petit souci, c'est que la Cour des comptes n'a aucun moyen coercitif. C'est-à-dire que la Cour des comptes présente des rapports
dont tout le monde se fout
ou pas. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent les grandes gueules depuis très longtemps, souvenez-vous quand Jacques Maillot était avec nous dans les grandes gueules.
Supprimer la Cour des comptes.
Le pipeau de Maillot, régulièrement, il disait les rapports de la Cour des comptes ne servent à rien. Je propose qu'on supprime la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes, des comptes à Paris, je crois qu'on les appelle les sages de la rue Cambon, si je me souviens bien.
Mais il y en a plein dans les régions.
Mais voilà, mais il y a plein de Cour des comptes dans les régions.
Parce qu'il
y a
deux
200 millions d'euros de fonctionnement de la Cour des comptes.
Sans doute que là, on pourrait faire quelques économies aussi.
Juste pour l'anecdote, sachez-le, à la rentrée de la Cour des comptes, qui est la rentrée solennelle, tu es premier président de la Cour des comptes, tu fais ta rentrée solennelle en robe d'hermine. D'accord? D'apparat. Il vaut 2000 balles. Sachez-le que vous rentrez.
En plus,
vous rentrez avec
les ordres de la République.
Avec le col d'hermine.
La
robe en soie. Avec des médailles. Et la robe est à 1500 ou 2000 euros.
Trouver des hermines afin de faire un manteau aujourd'hui, il faut déjà se lever tôt.
Peut-être que c'est synthétique aujourd'hui.
Si, c'est des hermines d'élevage. Mais c'est horrible. Mais Ces gens-là sont persuadés d'incarner la continuité de l'État. C'est pour ça que c'est l'État profond, parce que justement, c'est nous allons être la permanence de l'État. Et pour ça, ils ont des leviers qui sont des leviers antidémocratiques. La rétention de l'information, on va filtrer ce qui doit remonter jusqu'au pouvoir, et l'inertie administrative. On bouge pas, on attend, le politique nous donne des ordres, on fait pas. Donc, encore une fois, les prochains qui, en 2027, vont être élus, et ça, il faut que les Français les bien en tête. Je vais vous dire, qu'est-ce qui fait le succès de Milei et de Trump, quoique les petits commentateurs de plateau disent, c'est qu'ils se sont attaqués à l'État profond. Ils ont dit, nous, on sait très bien qu'on a une politique de rupture à mener, qu'elle nous plaise ou qu'elle nous plaise pas, mais on a une politique de rupture à mener. Si on met pas un grand coup de pied dans la fourmilière de l'État profond, on brassera de l'air, on fera du vent comme les éoliennes. Donc, en 2027, si on a des gens qui aujourd'hui nous font les va-t-en-guerre puis finalement gouvernent comme Chirac, comme il me semble que certains profils nous l'annoncent, c'est-à-dire je sonne le clairon, mais une fois que je serai au pouvoir, je vais même éventuellement nommer mes copains au même poste. Moi, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de la République bananière qui, en plus, se permet de venir donner des leçons à la terre entière, dire au chef d'État africain, oh, dis donc, c'est pas très démocratique, ben excusez-moi, le spectacle qu'on donne, c'est pas jojo.
Madame Montchalin, quand même, reconnaissons-le, ça sera la première femme à la tête de cette institution qui est vieille de plus de 200 ans. Donc, c'est à Lyon quand même déjà la féminisation de ces postes.
Xavier, voilà, bonjour super. Xavier.
Ça c'est l'info en soi.
Bonjour. Attendez, je voudrais qu'on accueille Xavier qui est fonctionnaire territorial. Que pensez-vous de cette nomination, Xavier?
Alors déjà, il y a plusieurs points, je ne vais pas revenir sur le fait des indemnités qui sont monumentales et tout ça. Surtout, c'est ce qui se passe, c'est que de Montchalin, elle a présenté le budget à l'Assemblée et on va faire valider le budget
par
elle-même à la Cour des comptes. Là, on est dans tout ce que représente Macron, c'est-à-dire qui se fout de notre gueule.
Exactement.
Il nous prend pour des abrutis, pour des...
Vous savez ce qu'on vous répond, Xavier? On vous répond, parce que la question a été posée notamment à Madame Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Ah, ouais. Elle dit oui, mais peu importe, à partir du moment où les compétences sont là, c'est ça le vrai.
C'est la Macronie aussi.
Ils se rendent même pas compte du signal qu'ils envoient.
Oui, il y a un conflit d'intérêts très clair. Oui.
Bien sûr, si plus personne va voter, il y a bien des raisons. Alors, en l'occurrence, ou voter contre eux. Pour le coup, ça serait bien. Moi, je ne sais pas sur ces postes. Je maîtrise pas tout. Mais quand il y a des candidatures, est-ce qu'il pourrait pas y avoir plusieurs candidatures? Et je ne sais pas. À minima, ça peut être par un certain prisme que ça soit les députés qui votent pour le candidat, qui a au moins un minimum de clarté, qui a un processus démocratique, et que ça soit pas de la cooptation d'amis, du reclassement, vous vous rendez compte? Elle est jeune. D'ailleurs, elle va faire que ça, je sais pas.
Peut faire jusqu'à 68 ans, elle pourrait s'en
aller.
Je suis d'accord. Alors, je comprends l'inamovible, c'est pour que elle reste indépendante, que s'il y a un changement de pouvoir,
qu'elle soit pas copine avec le pouvoir. C'est vrai.
Pouvoir va changer.
L'indépendance, ça commence bien. Son mandat, elle commencera bien. Hein. De passer de ministre du budget à valider son budget. Le signal dans l'indépendance, il est monumental. Là, youpi. Non, je sais pas moi. Mais il faut que tous ces postes indirects de nomination, il y ait au moins un prisme de clarté, qu'il y ait des règles.
Oui.
Qu'il y ait des règles. Il y en a pas. Des gens qui soient décisionnaires. Je sais pas. On a des députés, on a des CSE, on a plein d'instances, on a des sénateurs, on a des... que ces gens-là, au moins, ils donnent leur avis. Alors après, il y aura toujours une orientation politique. Je suis pas dupe. Hein. Si c'est les députés et les sénateurs qui votent, ça sera quelqu'un dans la mouvance majoritaire.
Mais parce que justement, dans l'Assemblée actuelle,
il
n'y a pas de majorité, donc il y a un plein suspense.
Oui, s'il y a un vote à l'Assemblée, il y aura certainement, ça dessinera, on voit à peu près ce que ça peut dessiner. Mais au moins, il y aura une transparence qui est des multi candidature aussi, parce que il y a peut-être des gens à qui on pense pas, mais qui seraient très bien, qui feraient le job.
Et des candidatures en dehors du sérail politique.
Xavier, il faudrait peut-être qu'on s'interroge aussi sur à quoi ça sert la Cour des comptes, quoi.
Oui, c'est aussi.
Combien ça coûte? Est-ce que ça produit? Est-ce que ça nous rapporte, quoi? Parce qu'à un moment donné.
Si tu te fies à ce qui est écrit dans les statuts de la Cour des comptes, créé
créé en 1807 par Napoléon Bonaparte, comme l'a rappelé Olivier. Cela s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration publique entreprise par Napoléon. Il fallait améliorer la gestion des finances de l'État. Les trois missions de la Cour des comptes, contrôler la gestion des organismes recevant de l'argent public, évaluer l'efficacité et l'efficience des politiques publiques, identifier les dysfonctionnements et les risques de gaspillage
des
fonds publics.
Donc la Cour des comptes est en échec alors.
Non mais le problème c'est qu'il faut appliquer parce que effectivement font, comme le dit Abel, c'est un échec absolu puisque aujourd'hui la France est la mauvaise élève en termes de déficit et de dette de l'Europe.
Mais donc, les rapports
de la Cour des comptes n'ont pas été écoutés, entendus, appliqués. Donc là, il y a une situation d'échec de la Cour des comptes.
Mais la Cour des comptes, elle l'a dénoncé.
Merci Xavier, merci d'avoir été avec nous.
On est donc bien dans la nomination monarchique. On est bien dans la nomination de monarchique, mais pour autant, vous remarquerez qu'ils se bousculent tous pour devenir monarques. Donc, en réalité, le problème, il est là, c'est qu'on a une classe politique qui fait semblant de critiquer le système, mais qui ne rêve que de ça, de venir jouer au monarque. Et ils trouveront ça. Et quand ils auront terminé, ils seront contents, ils se seront bien amusés, ils nous diront quoi? C'était chouette. Mais tout est dit dans cette phrase de Macron. C'était chouette, j'ai passé un bon moment et j'ai placé mes copains. Mais non, mais il est tellement transparent dans sa psychologie, ce type-là. Et vous vous rendez même pas compte où il mène la France.
Tu verras tout à l'heure notre confrère Michael Moreau qui vient avec ce livre, Sa Majesté nomme.
C'est pas Macron qui
l'a créé. Un pouvoir présidentiel exorbitant. Tu verras que c'est depuis François Mitterrand surtout qu'il y a une dérive, qu'effectivement le président nomme des milliers de personnes. C'est un vrai pouvoir.
Alors attendez, justement, tout à l'heure, soyez avec nous à 11h pour écouter notre confrère Michael Moreau avec ce livre, Sa Majesté nomme, enquête sur un pouvoir présidentiel exorbitant. Effectivement, vous savez combien le président de la République nomme de personnes?
C'est des milliers.
Entre 5000 et 10000. Entre 5000 et 10000 nominations de personnes. Alors il y a les plus spectaculaires comme la Cour des comptes et puis après il y a toutes celles qui passent à l'as comme ça. Et on n'arrive même pas à savoir tellement il y a de nominations. Je vous conseille d'être avec nous tout à l'heure pour écouter Michael Moreau.
Et j'ai retrouvé cette phrase de François Mitterrand qui colle bien. Il avait dit avec 60 amis bien placés, on tient le pays.
Voilà. Ah bah, il savait de quoi il parlait, lui, effectivement.
Bah, voilà.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules. On va réécouter ce qu'il disait. Là, on restera dans la politique avec vous au 32-16, surtout si vous êtes électeur de droite. On va rester sur la petite phrase de Jordan Bardella prononcée ce week-end. Il dit, les LR ne voient pas ce que veut la base. La base veut l'union des droites. Est-ce qu'elle est inéluctable? On va venir en discuter avec vous au 32-16.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, avec vous, comme tous les jours, au 32-16. Aujourd'hui, l'éducateur Abel Boyer des nôtres, avec Didier Giraud, l'agriculteur, et Barbara Lefebvre, l'enseignante. Attendez une seconde, qu'est-ce que vous foutiez?
Non, c'est pas raconté.
Que Abel Boyer et Didier Giraud, c'est deux gosses. Dans une classe, quand t'en as deux qui s'entendent comme la ronde, qu'est-ce que tu fais? Tu les mets devant pour les avoir sous les yeux ou tu les mets au fond de la classe?
Moi, c'est un plan de classe du début à la fin de l'année, donc personne se met en fonction de ses affinités avec moi. C'est plan de classe.
Donc, alors, qu'est-ce que tu fais avec
ça ferait longtemps.
Mais moi, de toute façon,
G comme Giraud et B comme Boyer seraient déjà pas à côté l'un de l'autre, puisque c'est un plan de classe par ordre alphabétique.
Ah, bah là, tu peux mettre deux copains côte à côte.
Non, il y a réajustement, bien sûr, si jamais ils sont copains, et je ne les mets pas ensemble, évidemment.
Allez, avec
les... C'est sympa d'aller à l'école avec Barbara.
Avec les GG.
C'est pas fait pour être sympa, c'est fait pour venir apprendre des choses.
Voilà.
C'est vrai qu'on ne pouvait jamais se mettre
sur le visage. C'est pas fait pour être sympa.
Mais t'inquiète, quand ils finissent l'année, ils se rendent compte qu'ils ont appris des trucs et que dans un bon climat d'apprentissage, c'est-à-dire le silence et le sérieux.
On peut parler de la suite. Et ils écrivent bien. Allez, on y va pour parler de l'union des droites avec Jordan Bardella. Les électeurs le veulent, mais ce que dit Jordan Bardella, c'est que les LR n'ont plus la lucidité de voir que c'est ce qu'il faut faire.
Il y a aujourd'hui une déconnexion très claire entre les cadres des Républicains, entre M. Retailleau et la base à la fois des sympathisants, des militants, des électeurs LR, de tout ce peuple de droite qui pendant de nombreuses années a cru à la fois en Nicolas Sarkozy puis en François Fillon. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'électeurs du Rassemblement National qui viennent de cette famille politique. Cette déconnexion entre la tête des Républicains et le peuple de droite est avérée depuis très longtemps. Et moi, je n'ai qu'une seule boussole, c'est l'intérêt du pays et la nécessité de nous rassembler en vue des prochaines élections présidentielles et des élections législatives.
Voilà, les électeurs eux-mêmes rappliquent vers le RN, mais ça, le LR ne peuvent pas le voir. Il parlait de Bruno Retailleau qui doit se déclarer l'élection présidentielle d'ici quelques jours.
Ça sera le 25e candidat à l'élection présidentielle. Il y en aura d'autres. Hein. On va être à peu près à 50, à mon avis. Puis après, ça va dégrossir. On connaît le truc. Mais d'ailleurs, je crois que demain, on reçoit Jérôme Guedj, candidat à l'élection présidentielle.
Futur président de la République.
Ben, peut-être, tout est possible. En fait, depuis toujours dans les sondages, lorsqu'on interroge les électeurs de droite, ils disent oui, il faut des accords entre le RN, les LR et tous les partis de droite. Pourquoi les LR on disent non? Parce que leur argument est le suivant, si on fait ça, on va définitivement se faire bouffer par le RN. Sauf que les LR, tout seuls, en quelque sorte,
ils sont déjà bouffés, ils
perdent beaucoup d'influence. J'ai constaté ça à l'occasion des municipales, ils n'ont plus le pouvoir sur aucune ville de plus de 100 000 habitants. Mm-hmm. Les LR, qui étaient pourtant un parti d'élus, hein, un parti qui était ancré. Donc on voit bien que les LR sont en chute libre. Leur candidate a fait 4% de la présidentielle. Ils ont un groupe qui n'arrive plus à tenir l'Assemblée nationale. Certains ont sauvé le cornu, d'autres au contraire voulaient les censurer. Bref, ça part dans tous les sens. Et effectivement, ils n'auront peut-être pas le choix. Moi, je fais le pari que Bruno Retailleau, qui aujourd'hui, à mon avis, dans les sondages, je crois, va faire 8-10% à grand maximum, sera peut-être obligé de se rallier à un autre candidat de droite. Alors peut-être pas Jordan Bardella au premier tour, mais pourquoi pas Édouard Philippe. Et puis au deuxième tour, si le choix c'est entre Bardella et Mélenchon, bah, les LR devront aussi choisir.
Didier,
je voulais revenir sur les propos de Jordan Bardella, parce que il dit les électeurs de droite aspirent à ça, mais en même temps les électeurs de droite, ils aspiraient déjà à ça quand Sarko était à 45% et lui à 10 quoi. C'est pas une nouveauté, c'est plus facile de le dire quand c'est toi qui es en tête quoi. Je trouve que la stratégie des LR elle aurait pu être payante s'ils avaient pas autant soutenu la Macronie quoi. Dire il y a quelque chose d'infranchissable entre nous et le Rassemblement National, ça marche. Si le cheval que t'as choisi, il est dans le quintet, quoi. Hein. Parce que le cheval que t'as choisi aujourd'hui, et je pense que Retailleau, il va le payer d'avoir été au gouvernement.
Ministre de l'Intérieur. Enfin, ouais.
Moi, qu'on m'explique que Édouard Philippe est le chantre de la droite. Merde, Édouard Philippe, il a fait le Premier ministre à Macron pendant tout un mandat, quoi. Donc ça, enfin, si c'est la
Bruno
droite.
Retailleau, il s'est fait connaître aussi. Il a obtenu cette notoriété grâce à son passage à Beauvau.
Ouais, mais il était trop longtemps.
Non, mais les LR,
je pense qu'il y a la stratégie du groupe et il y a le souhait des électeurs. Et je pense que les électeurs de droite, ils n'iront plus sur tout ce qui a approché Macron et ils n'iront pas plus à gauche. Donc à un moment donné, ça va se reporter à la droite de la droite.
Ouais, mais le problème des LR, c'est un parti qui a été écartelé justement entre la Macronie et le Rassemblement National, qui a perdu toute identité à courir après le Rassemblement National jusqu'à en devenir une version Wish. Et en plus, ils sont vieux. C'est le parti de Vercingétorix et de Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers. Il n'y a aucun jeune qui est promu. Et c'est le seul parti qui croit encore en la méthode Sarkozy, qui pense qu'il faut passer par Beauvau pour devenir président de la République. Ça fait 10 ans que ça ne marche plus, en fait. Quand Retailleau, il y va, pourquoi? Il pense que ça va être un tremplin. Quand Wauquiez, on sait que dans le secret, c'est un poste qui lui a plu aussi, pour qu'il convoitait. Eh ben non, ça ne marche plus. Quand Darmanin, il y est allé, même si lui, on ne sait plus s'il est LR ou macroniste, il pensait que ça serait un tremplin. C'est qu'ils sont dans.
Il est
dans,
plus LR. Il est officiellement membre du Parti Renaissance.
Mais c'est-à-dire que c'est le seul parti qui reste dans des logiciels, mais complètement dépassés, qui ne parle plus, comme l'a dit Charles, qui ne comprend rien aux réseaux sociaux. Regarde la tête des gens qui sont là. Et Bruno Retailleau. Mais est-ce qu'il a du charisme, ce monsieur? Pardon, une huître a plus de charisme que lui, quand même.
Oh là!
Balle perdue.
Oui, balle perdue.
Non, elle est LR... pas perdue, elle est bien dirigée.
Ah, oui.
LR est macronisée. Ça signifie c'est LR est carbonisée. Point. Le PS, eux, ils sont beaucoup plus malins. Un jour, je fais des bisous à Le Cornu. Le lendemain, je fais des bisous à LFI. Parce que c'est ça, le Parti Socialiste. C'est un coup comme ci, un coup comme ça. Eux, ils sont plus malins.
Le
Les LR, ils ont décidé depuis janvier 2017, c'est-à-dire à partir du jour où il y a eu l'affaire Fillon, ça a été courage, fuyons, Fuyon-Fillon.
Bah, une partie a rejoint Macron pour
absence pour totale, déplacer, absence totale de loyauté.
Enfin, c'est des traites à l'époque.
Là, on crachait tant et plus sur Monsieur Fillon, alors que je vais vous dire, même dans la Macronie, des affaires de costumes et d'emplois fictifs doit y en avoir aussi, ça aussi. Mais comme tout est verrouillé, un jour ou l'autre on saura. D'ailleurs, j'attends toujours le coffre-fort de Benalla. Je n'arrête pas de le dire, mais enfin bon, apparemment, personne m'écoute. Maintenant.
Sauf sur RMC.
Mais c'était chouette, par contre, c'était chouette. La fugue de Benalla, c'était chouette. Alors, maintenant, quand on voit Monsieur Bardella a beau jeu de le dire, puisque regardez, l'UDR de Ciotti. Moi, je trouve que l'UDR de Ciotti est bien traité par le RN. C'est-à-dire que ils peuvent pas.
Sas d'ailleurs pour rejoindre.
Oui,
le RN,
et il y a l'UDR. Énormément. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Moi, je connais des LR qui aujourd'hui ont quitté LR, font leur campagne municipale sans étiquette. Et puis une fois que la municipale sera passée, ils vont rejoindre l'UDR parce que ils y trouvent. Ils veulent pas aller au
ça
RN.
Sera moins sale que le
ils
RN.
Veulent pas aller au RN pour des raisons d'histoire personnelle, d'engagement. Ils vont aller vers Ciotti et pour l'heure, au jour où nous parlons. Ciotti est bien traité par le RN. Il a des circos, il y a des accords. Le RN ne leur marche pas sur les pieds.
Il est candidat à Nice.
Le RN ne lui marche pas sur les pieds, le respecte parce que Ciotti sait se faire respecter, parce qu'ils savent aussi que Ciotti, il va amener de la force, il va amener aussi peut-être des gens qui ont un peu de bouteille sur les ministères, etc. Ouais. Donc, excuse-moi, si les LR avaient deux jugeotes, pareil pour Knafo et compagnie, ils comprendraient. De toute façon, c'est comme ça, tu te rallies au plus gros. À l'époque, excuse-moi, tout le monde était autour de Sarkozy. Maintenant, le Paris Centre a changé.
Du côté des Hauts-de-Seine avec Jordan qui est cadre. Bonjour Jordan.
Oh, bonjour.
C'est le prénom à la mode, vous devez vous faire vanner, j'imagine.
Oui, malheureusement.
Alors, qu'est-ce que vous en dites? Les LR, ils peuvent encore espérer ou c'est comme le disait Barbara, carbonisé?
Pour moi, les LR, c'est mort parce qu'ils n'ont pas d'identité aujourd'hui. Ils n'en ont plus, en tout cas. Il y en a la moitié qui est partie, on va dire, absorbée par le macronisme, et l'autre moitié qui sont des RN non avoués. Et faut savoir quelque chose. Enfin, le RN n'est pas un parti de droite. Je pense que déjà, il y a une erreur de communication au niveau médiatique quand on dit que le RN est parti de l'extrême droite. C'est faux. Parce que déjà, le premier volet, qui est justement le volet le plus important, c'est le volet économique. Le RN, c'est l'extrême gauche. Donc, pour maintenant, il faut arrêter d'appeler le RN de l'extrême droite. C'est pas parce qu'on est identitaire qu'on est de droite. Déjà, si on pose des bases comme ça. Donc, moi, j'aimerais dire qu'on arrête d'appeler le RN extrême droite. C'est faux. Ensuite, si on veut une alliance de droite avec des vrais gens de droite, aujourd'hui, il n'y en a quasiment pas en France. Hein. Je veux dire, faut être honnête, la droite n'existe pas en France.
La droite libérale, c'est ça, en fait. C'est ça. La droite pro-entreprise, libérale, voilà.
David Lisnard essaie de l'incarner.
Bah oui, c'est ce que je dis, il est tout seul. Et c'est
non, il y a Lisnard, Knafo, Marion Maréchal.
Mais j'ai envie de dire qu'Edouard Philippe va aussi vouloir l'incarner, ça. Vous allez voir.
Il va vouloir, mais pourtant, on est très très loin, quoi. C'est timide. Il parle à
peu près. Non, mais l'étiquette qu'il a dans le dos.
Oui, mais il promet un pendant d'un peu de rupture.
Donc, Jordan, moi, je voudrais comprendre. Finalement,
t'étais Premier ministre pendant 6 ans, tu vas faire la rupture, quoi.
Attendez.
Ça nous a paru.
Du coup, Jordan, pour vous, qui est, si j'ai bien compris, électeur de droite plutôt traditionnel, qui serait votre candidat aujourd'hui?
David Lisnard, je pense que ça sera. Je voterai pour le premier tour et je voterai blanc au deuxième parce qu'il n'y sera pas. Donc, c'est la réalité.
Un mythe.
D'accord.
Pour vous, le seul qui soit vrai.
En fait, il faudrait un vrai parti de droite qui n'existe pas, mais le problème, c'est que la culture économique en France est abyssale. On est biberonné à.
Il y a des députés LR qui ont suspendu la réforme des retraites. Des députés LR.
Il y a 18 députés LR qui ont maintenu le cornu en place quand même aussi.
Mais c'est pour ça que c'est 18.
Non mais moi je crois que les amoureux de l'Istar, c'est des Don Quichotte quoi. Hein.
C'est des Don Quichotte. Qui assument un peu, enfin qui rejoignent peut-être après David Sinard, Marion Maréchal, Sarah Knafo, mais ça pèse pas grand chose.
Du coup, engagez-vous derrière Ciotti, ça sera plus.
Alors attendez Jordan, je voudrais qu'on écoute Jérôme qui est avec nous. Bonjour Jérôme.
Salut tout le monde.
Vous avez entendu le dépit en fait de Jordan pour qui lui il veut une droite qui soit pour les baisses d'impôts qui soit vraiment libérale. Et pour vous alors Jérôme, elle est où la droite, la vraie droite aujourd'hui?
Justement, je pense que il a mis vraiment le doigt à quelque chose d'important, c'est qu'il faut arrêter de mettre le RN à droite. Moi je suis d'accord, je suis désolé, moi je suis de valeur de droite, mais économiquement je suis plus à gauche. J'aimerais plus que ça reste de la solidarité et moins de l'assistanat au niveau social, mais ça c'est un autre sujet encore. Je pense que, parce qu'on le voit à droite, on entend quand même derrière, il faudrait commencer à arrêter certaines aides, certains machins. Non, il faut les réguler pour plus qu'il y ait de l'assistanat. Mais il faut continuer évidemment les aides. Et je pense que, moi je veux pas des LR. Moi je veux renverser la table comme disait Barbara, je veux qu'on foute un coup de pied au cul à l'état profond. Et j'ai pas envie de me retrouver avec Larcher et tous ces gens-là qui nous gouvernent depuis 60 ans et qui nous ont foutu dans la merde. Et c'est là où Jordan Bardella se trompe. Il faudrait qu'il écoute aussi certaines voix de certains de ses électeurs. Moi, je vote RN depuis 2012. Ce n'est pas pour avoir ces gens-là au RN. Je ne veux pas de ces gens-là. Je veux qu'on leur foute un coup de pied au cul. Alors... Je veux un eurosceptique, vite fait. Et je veux un eurosceptique qu'on mette à l'Union européenne pour récupérer notre électricité et certains pouvoirs régaliens. Et certaines souverainetés. C'est pas pour avoir les mêmes, les gars. Sinon,
mais intérêt. Attention, vous avez pas envie que Bardella vous recycle des LR si jamais il gagne et qu'on évidemment. Retrouve à des postes ministériels des LR qui sont là.
Non, mais du coup, Jérôme,
mais du coup c'est qui votre ministre de l'économie, Jérôme?
Intéressant ce qu'il dit.
Non, mais Jérôme,
mais oui, mais
ça
moi,
vous
j'aimerais
a...
savoir c'est qui son ministre de l'économie bah, dans
en
le
tout
monde
cas, pas Gérard Larcher, on a bien compris.
Mais du coup, Jérôme, ça vous a pas trop plu quand M. Bardella s'est lancé dans une grande déclaration d'amour à la souveraineté européenne à l'époque de Trump et du Groenland?
Moi, je vais vous dire, moi, je suis plus Marino compatible parce voilà. que je pense que par rapport à ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a connu, les bâtons qu'on lui a mis dans les roues, je peux vous dire que le jour où elle va arriver au pouvoir, le ménage de printemps va être fait. Bardella est plus systémo compatible. Mais bon.
Jérôme a raison. Attention, il y a beaucoup d'électeurs RN, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont déçus du Rassemblement National parce qu'ils pensaient avoir un parti anti-système et qui se rendent compte que c'est un parti qui fait partie du système justement, et ça va créer beaucoup de déceptions.
Merci à Jérôme. Forcément les déceptions.
Les élections, ça a toujours créé des déceptions.
Merci à Jérôme et Jordan. On conclut.
C'est ce que Bardella m'avait répondu quand je lui avais dit vous ne voulez pas renverser la table, vous ne voulez pas passer à tronçonneuse. Il m'a dit non, les Français n'aiment pas la violence en politique. Non mais il comprend pas que c'est
les
pas ça le problème. La question
Bardella,
c'est pas la violence en politique.
Oui, mais ceux qui
la question
prônent...
c'est le tournant
oui,
ou pas, turning point ou pas.
Oui d'accord, mais ceux qui prônent la rupture, ils l'ont été beaucoup ces dernières années.
Il Sarkozy, prône, mais cas,
Sarkozy apprenait la rupture, Macron apprenait la rupture, et ça a créé beaucoup de déceptions.
Rappelle-nous le slogan de François Hollande.
Le changement, c'est maintenant.
Alors, je vais te dire.
Et François Mitterrand voulait changer la vie.
Ça fait 45 ans qu'ils sont sur le changement. Il n'y a rien qui change.
Jérôme et Jordan, merci d'avoir été dans les GG. Je retiens ce que disait Jérôme. Il ne veut pas d'un candidat de droite systémo-compatible. Ce sont ses propres termes. Alors, l'union des droites, pour vous, est-ce qu'elle est inéluctable? On va voir votre réponse sur les réseaux sociaux. On va voir. C'est un oui à plus de 80%. Tiens, puisqu'on est à 80%, on va passer aux 80 km/h. Il y a la moitié des départements, les routes sont à 80 km/h. L'autre moitié, c'est à 90 km/h. C'est l'heure qui va repasser à 90 km/h. Le Gers va repasser à 90 km/h. Cette semaine, quelle est la bonne vitesse, 80 ou 90? Venez en discuter avec les grandes gueules. Il est 11h-20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Chez les grandes gueules, il est 11h-15. Nous sommes avec Didier Giraud, l'agriculteur, Abel Boyer, l'éducateur, et avec Barbara Lefebvre, l'enseignante. Et nous sommes sur la route avec vous. Savoir dans votre département quelle est la vitesse, quelle est la bonne vitesse. D'un département à l'autre, on n'a pas la même. C'est la liberté qui a été laissée au préfet de décider quelle est la bonne vitesse. Alors on a des départements qui vont repasser à 90 km/h. Grand dame des associations routières. N'en discutez avec nous. Et là, c'est l'heure qui est revenu, le département de l'Eure, à 80 km/h. Sont 50 départements qui l'ont fait depuis 2019.
Oui, parce que vous souvenez-vous, il faut rappeler l'histoire. C'est Édouard Philippe, alors Premier ministre, en 2018, qui veut les 80 km/h partout. Il veut généraliser 80 km/h. Et c'est l'un des éléments déclencheurs du mouvement des Gilets jaunes. Et donc, depuis, on a rétropédalé, comme souvent en France. Sauf qu'il y a eu des manifestations, enfin, tout ce qu'on a vécu avec les Gilets jaunes. Et désormais, on a dit, avec un peu de bon sens, c'est au département de décider si oui ou non ils veulent les 80 km/h. Et donc la moitié des départements est repassée donc aux 80, et ça continue puisque c'est désormais l'Eure en Normandie qui va repasser aux 80. Alors ça crée quand même pas mal de débats puisque les associations de lutte contre la mortalité routière rappellent quand même que la vitesse 90 rappellent quand même que la vitesse est le facteur aggravant des accidents. C'est la première cause d'accident, c'est la vitesse. Et alors le président du conseil général, du conseil départemental, se défend en disant « il faut un équilibre entre la liberté et la sécurité, et 90 km/h, eh bien, c'est l'équilibre ».
Dans ton département, c'est combien toi, Didier ?
90, il y a du 80 chez tous les... c'est 80 chez moi, il y a 90 chez tous les voisins.
Dans ton département, Seine-et-Marne, c'est combien ? C'est 90 ?
Non, moi, c'est l'Oise. Moi, je crois que c'est 80, je suis même pas sûr. Pourquoi je te dis
C'est peut-être pour ça que tu prends des PV.
Parce que les gens respectent pas, honnêtement. C'est-à-dire que
le 80...
les gens accélèrent. T'as ton GPS qui t'indique où est le radar, tu ralentis et tu réaccélères derrière. Alors certains vont dire, c'est irresponsable. Non, c'est la réalité sur le terrain. Qui respecte les 80 km/h, honnêtement? Personne. Est-ce qu'on a la preuve que les 80 km/h ont permis la baisse du taux de mortalité sur la route? Ben non, ben si t'as la moitié des départements qui reviennent aux 90, c'est que les 80 n'ont pas eu l'effet qui était voulu. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et oui, moi,
c'est ce que dit le président du conseil départemental de l'heure, il n'y a pas eu le choc sur la sécurité qu'on nous avait promis, comme il y en a eu un lorsqu'on a décidé de rendre obligatoire le port de la ceinture de sécurité, où ça avait vraiment effectivement limité le nombre de blessés sur la route. Donc il dit, bon, il n'y a pas d'impact visible, on peut remettre à 90.
Il y a une chose que j'aimerais bien savoir, c'est comment est la Seine-Maritime. Ça m'intéresserait.
Pourquoi ?
Bah, celui qui a décidé les 80 à l'heure, j'aimerais bien savoir comment c'est dans son département.
Ah, Edouard Philippe,
oui, dire. J'aimerais bien savoir.
Quelle vitesse
mais
en Seine-Maritime.
C'est surtout que moi, que je trouve complètement stupide, il y a des routes où 80. Tu peux rouler à 90 et il y a des routes où tu dois rouler à 80 et t'as des entrées de ville où tu roules à 50, à 60, à 70 et à un moment donné, ce qui est compliqué quand tu fais un peu de route, c'est que tu sais jamais à combien tu dois rouler, quoi. Tu ne sais jamais à combien tu dois rouler. Et je pense que ça, c'est peut-être plus accidentogène, les gens qui sont distraits par chercher à combien ils doivent rouler, que le 80 ou le 90. Et puis il y a un autre phénomène sur le 80, c'était hyper dangereux avec les camions.
Ah oui, c'est ça.
Les poids lourds, ils sont réglés à 92, 80, entre 91 et 92. Et ben, à un moment donné, si tu roulais à 80 piles, ils te rentrent dans le cul, quoi. Et je pense que ça, c'était hyper dangereux sur les départementales, quoi.
Barbara, juste avant de te donner la parole, on va aller dans le Gers. C'est Julien qui va intervenir. Bonjour, Julien.
Bonjour, vous allez bien?
Vous êtes à combien?
Julien, dans le GR, ça va repasser à 90, non?
Non, c'est 85, c'est entre les deux, en fait. Non, je déconne. Non, en fait, c'est bien pour prouver la connerie du système, en fait. C'est les décisions qui ont été prises par notre ami Edouard. Et donc, pour faire baisser la mortalité, soi-disant, mais en fait, au final, c'est n'importe quoi. Il y a les départements, c'est quand même. Enfin, moi, j'ai un grand secteur et il y a les départements, c'est 80, d'autres, c'est 90. En fait, on ne sait jamais. En fait, c'est concrètement le gros problème. Mais encore, c'est encore de l'argent gaspillé.
Il faudrait mettre 90 partout, 80 partout.
90, enfin, concrètement, il y a pas. Mais après, ce qui est choquant, en fait, c'est encore de l'argent qui est gaspillé parce que du coup, il faut
rechanger les panneaux.
Je suppose que les panneaux ont été jetés, ils n'ont pas été gardés. Et là, je vois, les mains aux poches. Enfin, c'est pas méchant, je dis ça, mais ceux qui s'occupent de ça, de l'entretien des routes, en fait, là, ils les ont emballés avec du papier parce que du coup, là maintenant, ils ont emballé le 80 pour dire que c'est 90. Donc du coup, ça s'envole avec le vent, ça fait dégueulasse. Hein, mais bref, tout est fait n'importe comment comme à chaque fois et encore de l'argent perdu.
Il va leur falloir une tournée pour les démonter, tournée pour les remonter.
Et le temps qui passe à faire ça, il faudrait mieux de refaire les routes concrètement. Il y a de l'argent. Enfin, nous, dans le Gers, on a une grosse infrastructure routière. Et là, les routes sont abîmées à pas mal d'endroits. Et quand je vois ça, ça me.
C'est la neige.
Je trouve ça aberrant. Mais c'est purement à l'image de la France, quoi. C'est les choix qui sont faits, c'est tout ce qu'on vit tous les jours. En fait, c'est tout le temps comme ça, quoi.
Merci, Julien, et bonne route du côté du Gers et de Montesquieu-sur-Gers. Merci, Julien.
Merci
bonne route, à bientôt.
À plus.
Bien sûr, quand on regarde les chiffres, c'est la vitesse excessive qui est la première cause de mortalité sur les routes. Mais bien souvent, cette vitesse, elle est excessive parce que la personne est sous stupéfiant, sous protoxyde d'azote, sous alcool. Cannabis. Non, mais elle n'a pas sous alcool.
Le nez sur le téléphone.
Mais bien sûr que si.
Oui,
sur
le
téléphone, il y a
oui.
des facteurs multiples qui expliquent que parfois tu es distrait par rapport à ta vitesse, que tu te rends pas compte. Excuse-moi, mais quand tu as fumé du cannabis, t'as pas complètement la maîtrise de l'espace, du temps, de ta propre vitesse. Quand tu as pris du protoxyde d'azote, ou même quand tu es distrait par des appels téléphoniques, etc. Donc, la vitesse excessive, oui, mais elle est forcément corrélée souvent à un facteur aggravant.
Comment vous expliquez que
ce
sujet, comment vous expliquez que ce sujet soit si éruptif, c'est-à-dire que ça a provoqué en partie le mouvement des Gilets jaunes et que ça reste quand même quelque chose de très clivant, à tel point d'ailleurs qu'il y a des présidents de département qui disent, moi je repasse à 90, sans doute pour être tranquille aussi, pour pas qu'on.
Mais le sujet aussi est éruptif parce que déjà c'est la manière dont il a été posé, c'est-à-dire que l'on crée des débats là où il y a pas besoin d'en avoir. Et surtout la raison, parce que souviens-toi, Édouard Philippe propose sa mesure, Gérard Collomb répond c'est une connerie, alors qu'ils sont dans le même gouvernement. Ouais. T'as toujours
Gérard cette Collomb cacophonie senti le truc venir.
Politique, et nous, le peuple, on est pris au milieu de tout ça, et ça nous casse les pieds. Donc oui, team 90, point barre.
Il y a aussi une partie de la France pour qui la bagnole et les routes départementales, c'est le quotidien, quoi.
Oui,
et à un moment donné...
70% des Français.
C'est compliqué, quoi, le 80, le 90. Et je pense que...
Il y avait un côté foutez-nous la paix. Il y avait un aussi.
On a marre
de toutes ces règles.
Surtout que c'est des règles. Je ne crois pas que ce soit 10 km/h qui fasse la différence, parce que la vitesse excessive, c'est des gens qui vont rouler à 110 sur une route à 90. C'est plutôt ça.
C'est l'adaptation de la vitesse par rapport au danger.
Il y avait dans le 80 la possibilité de te foutre un coup de radar à 81, et ça devenait aussi une mesure fiscale. Soyons pas dupes.
On a Olivier qui veut intervenir, il est du côté de la Moselle. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Bonjour Olivier. Et vous alors, dans votre département, c'est 80 ou 90 ?
Bon, on sait même plus à combien on doit rouler, évidemment. Alors nous, c'est 80. En plus, moi, je prends l'autoroute pour passer à la frontière tous les jours. Alors on a même des panneaux lumineux. C'est une fois 90, une fois 110. On passe la frontière de l'autre côté, c'est 120.
Vous allez travailler au Luxembourg, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, ce qui m'embête en fait dans tout ça, monsieur 80 km/h, monsieur Dorfilippe, dit d'ailleurs, sauf erreur de ma part, je crois même qu'il a fait partie d'une entreprise, d'ailleurs, à un moment donné, conseil d'administration, qui fabriquait les radars suite à cette loi. Mais bon, ça, c'est la petite parenthèse à revérifier.
Il était chez Areva, monsieur.
Ouais, mais enfin bref. Bon, peu importe. Ceci dit, moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'en fait, il manque de l'humain sur les routes. Moi, je fais la route tous les jours, et je suis d'accord avec Barbara. En fait, on sait très bien que depuis les radars, c'est pas les radars qui ont forcément fait baisser la mortalité. Il y a aussi la modernisation des voitures, etc. Mais où sont les gendarmes ? Moi, je vois tous les jours des gens avec leur téléphone portable. J'ai eu un accident il y a 3 ans parce que la personne derrière
n'a jamais arrêté. Elle a jamais su me dire pourquoi.
Je veux dire, il y a plus de gendarmes. On sait que les causes, c'est l'alcool. On sait que c'est la drogue. On sait que c'est tout ça, et en fait on voit plus personne. Et en plus, j'ai l'impression que les rares fois on voit la police, ils ont aussi perdu leur bon sens. C'est-à-dire que c'est le but, c'est de mettre des PV et on cherche pas derrière. Non, les vraies causes, on le sait, quelles sont ces causes-là. Et moi, c'est ça qui m'embête, c'est qu'il y a plus d'humains. Il y a que de la machine. Et ça, c'est vraiment intolérable.
On est bien d'accord.
Il y a autre chose aussi. Dites-moi, Olivier, vous qui roulez beaucoup là sur autoroute départementale et nationale, quel est l'état des routes du côté de la Moselle aussi, dites-moi.
Ben, l'hiver est passé, donc c'est un peu compliqué. On a eu pas mal de nids de poules et de choses comme ça.
Voilà.
Donc c'est vrai qu'il y a énormément de routes qui sont effectivement mal entretenues. On se demande d'ailleurs où va l'argent. Je crois qu'il y a que 1%, je crois, de l'argent des radars qui va sur les routes, de toute façon. Mais c'est un peu partout pareil. Je crois que c'est vraiment un peu partout pareil. Et encore, on a la chance pour l'instant d'avoir une partie autoroutière qui est gratuite, qui va bientôt devenir payant, évidemment, hein, parce que. Mais c'est pas pour ça que ça améliore les routes tout autour.
Mais c'est ça aussi. Vous avez raison, Olivier. D'autant que, comme le rappelait Didier, quand on a mis à 80 km/h, tout le monde s'est dit, de toute façon, c'est pour nous prendre du pognon. Et en plus, on n'en a même pas pour notre pognon, puisque les nationales et les départementales, plus les années passent, plus elles se dégradent. Donc, on a une infrastructure routière qui n'est pas en bon état aussi, Olivier.
Et puis, le bon sens, moi, ça m'est arrivé une fois sur l'autoroute de me faire doubler par les gendarmes. Ils devaient être certainement en plus de 200 km/h, parce qu'ils avaient rattrapé une voiture qui m'avait doublé, qui devait peut-être être à 160. Je suis désolé, moi, les gendarmes m'ont fait peur à ce moment-là. Je ne les ai pas vus arriver. Je veux dire ça aussi, c'est à un moment donné, sur autoroute, mais à un moment donné, il faisait beau, il faisait sec, il pleuvait pas. Alors effectivement, faut juger les comportements, mais je pense qu'il y a aussi un juste milieu à trouver. Moi, je sais que je me suis fait arrêter il y a 20 ans par les gendarmes, j'étais en moto, j'étais sorti d'un village que je ne connaissais pas, on était en pleine campagne, je pensais que le panneau sorti de village était passé, ce qui n'était pas le cas. Les gendarmes m'ont arrêté, j'étais à 25 km/h au-dessus des 50, donc 75. Je leur explique gentiment que je pensais que j'étais à la sortie du village, je suis tombé sur un gendarme qui avait du bon sens, qui m'a demandé mes papiers.
Ouais. Un peu, dialogue, un, coin, peu de un peu de dialogue,
un peu de présence. Il m'a dit, écoutez, monsieur, faites attention, le panneau, il est là. J'ai dit, écoutez, je suis pas du coin, moi, je voyais plus de maison, je suis reparti.
Olivier,
c'est intelligent, c'est de la prévention, voilà. Oh, ça, c'est de
la prévention, le dialogue, plutôt que les machines. Merci.
Les gendarmes,
alors, 90 ou 80, quelle est la bonne vitesse? On va vite regarder ce que vous en pensez. On va regarder la consultation. C'est 90 km/h. Allez, suite des GG dans un instant. Restez avec nous, avec notre invité.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.